Bonjour, Monseigneur Eugène.
Bonjour.
Avec vous, pendant ce mois de juin, nous avons pris le temps de réfléchir et de comprendre ce que peut être une Église pauvre, comme le pape François l'appelle de ses voeux. Aujourd'hui, nous allons essayer de cerner la réalité de l'Église de l'Ariège, votre diocèse, depuis 2014. Enfin, je dis Ariège, je devrais dire Pamiers, Couserans et Mirepoix, qui couvre donc le département de l'Ariège à l'exclusion du canton de Quérigut. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots?
Oui, alors l'Ariège, c'est un territoire qui est un peu aux périphéries. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que le pape François parle souvent des périphéries. Alors nous sommes à la fois dans les périphéries géographiques et sociales. Géographiques parce qu'on est vraiment au plein sud de la France. Derrière l'Ariège, c'est l'Espagne et l'Andorre. Périphérie sociale aussi parce que c'est un département qui a connu un effondrement économique et agricole assez important, en particulier au moment de l'ouverture à la mondialisation. Il y a des territoires comme la Vlanée dans lesquels il y avait une forte présence de l'industrie textile et puis tout ça s'est effondré. Dans le Couserans, il y avait plus la présence de l'industrie du bois ou de la pâte à papier et tout ça n'était plus concurrentiel aussi. Et puis, on a des montagnes qui sont assez riches en minerais de fer en particulier, donc il y avait des exploitations minières qui étaient importantes et puis c'était plus rentable compte tenu de la concurrence et de la difficulté d'accès. Donc on est aussi dans ces périphéries sociales, on a des gens en difficulté sociale avec des populations qui peinent à trouver du travail. Les dernières statistiques au niveau des impôts, dans notre territoire, on n'a que 35% des personnes qui sont éligibles à l'impôt sur le revenu. Donc ça dit quelque
C'est
chose
considérable.
De la réalité sociale de notre territoire.
On peut donc qualifier effectivement votre territoire, votre diocèse de pauvre, avec l'humilité du terme. Comment est-ce qu'on assure une vie spirituelle riche à ses fidèles alors, quand on a peu de moyens?
Alors, le fait d'être pauvre ou d'avoir peu de moyens, en quelque sorte, on pourrait se dire, c'est aussi une chance, parce qu'on risque moins de s'illusionner par la richesse de nos moyens ou par l'importance de nos moyens. On est vraiment tenu d'aller à l'essentiel. À un certain moment, il m'arrive de dire cela aussi dans une démarche pédagogique vis-à-vis des jeunes qu'on initie à la haute technologie ou aux moyens Internet, aux réseaux sociaux. Dire, n'oubliez pas que vous ayez un crayon de papier ou que vous ayez un ordinateur hautement performant ou le dernier smartphone à la mode, en gros, si vous n'avez rien à dire, ça ne change pas grand-chose. Donc à un certain moment, nous avons l'évangile à annoncer. Et si, au lieu de l'annoncer avec des voitures surpuissantes, on l'annonce avec des bonnes chaussures de marche ou en étant dans une démarche itinérante avec un mulet ou un mérins, un de ces chevaux préhistoriques de l'Ariège, ben finalement c'est grâce. Mais l'essentiel est finalement quelque chose d'assez pauvre, c'est le message de l'évangile. Il suffit de l'avoir dans sa poche, comme ces prédicateurs mendiants et itinérants. On a d'ailleurs, en Ariège, je pense, aux portes de l'Ariège, des frères et des sœurs de l'Agneau, là, qui sont à Saint-Pierre-de-Plavilla, qui sont des mendiants, et qui finalement annoncent l'évangile en se déplaçant, la plupart du temps, en autostop, en mendiant aussi l'hébergement ou leur nourriture. Et c'est un témoignage évangélique tout à fait extraordinaire. Alors nous n'avons pas le choix que d'utiliser des moyens pauvres, mais nous recevons cette réalité comme une grâce. Nous ne jalousons pas les diocèses qui sont bien plus riches que nous.
Mais alors, quelle est votre méthode? Comment est-ce que vous faites émerger des idées nouvelles? Alors que, bon, malgré tout, concrètement, la majorité des personnes qui sont dans vos églises, elles ont connu Vatican II, on va dire.
Oui, effectivement, la majorité des personnes pratiquantes habituelles qui sont dans nos églises sont des personnes relativement âgées. Mais en même temps, les personnes que l'on rencontre au quotidien, alors en dehors des églises, mais qui sont ces chercheurs de Dieu dont on parlait à une autre occasion, dans une autre de nos rencontres, ces personnes-là qu'on ne rencontre pas au moins dans un premier temps à l'église le dimanche, on les rencontre dans une épicerie sociale, en randonnant sur nos chemins de grande randonnée ariégeois, et on échange vraiment sur l'essentiel de nos existences. On a des gens qui s'installent en Ariège, qui viennent d'un peu partout d'ailleurs, d'un peu partout en France et même de l'étranger, qui se disent « ce territoire est tellement pauvre », entre guillemets, que c'est un des lieux, en France et même en Europe, où on peut peut-être inventer un autre mode de vie, éloigné du consumérisme ou d'une agriculture intensive et industrielle. On rencontre des gens qui essaient de trouver une parcelle de terre et qui se mettent à la permaculture ou à un élevage non intensif ou à fabriquer des parfums, et qui ne sont pas juste des rêveurs, qui sont des gens qui ont parfois eu de vraies responsabilités dans notre société, dans le monde de l'industrie ou de la banque, qui ont fait des écoles de commerce et qui se disent, on parle sans arrêt d'inventer un nouveau monde, nouveau mode de vie. On va essayer de vivre ça sur ce territoire. Et là, on a vraiment des espaces de dialogue, de rencontres, tout à fait porteurs d'espérance et d'avenir pour l'avenir de l'Évangile sur nos territoires.
Pour faire bouger tout cela, les besoins bénévoles ne sont pas seulement ceux de votre diocèse, c'est aussi ceux des associations qui sont sur votre territoire, notamment celles qui s'occupent des plus pauvres. Comment est-ce que vous vous appelez à la moisson? Comment maintenir un nombre de bénévoles suffisant pour toutes les tâches qui s'attendent ?
Alors c'est difficile. La logique de l'appel, on se disait cela avec un frère prêtre, attentif aussi à ces réalités-là, Père Karl Emmerich, dans un autre diocèse. Autrefois, on était plutôt dans une pêche mode chalutier. Aujourd'hui, donc la pêche au gros...
C'est la pêche à la ligne, c'est ça?
Aujourd'hui, on est plus dans la logique de la pêche à la ligne. C'est-à-dire, c'est une rencontre interpersonnelle, un dialogue en profondeur avec une personne, et au terme duquel on se dit, tiens, après ce dialogue, j'ai le sentiment que ce charisme est en toi. Est-ce que tu accepterais de répondre à cet appel, à venir nous rejoindre pour cette mission-là? Non pas forcément parce qu'on en a besoin, mais parce que j'ai discerné chez toi ce charisme-là. Peut-être que dans ces temps de pauvreté, plutôt que de partir de nos besoins, de dire il faudrait qu'on remplisse cet organigramme en se mettant un peu la pression vis-à-vis de toutes les cases qui sont vides, vivre de la rencontre interpersonnelle et dire ce que nous avons à vivre, c'est ce don que Dieu a fait à cette personne et qu'on va essayer de mettre en valeur. Donc partir des charismes des personnes plutôt que des besoins de notre organigramme. Et là, l'expérience semble montrer qu'il y a des choses tout à fait étonnantes qui surgissent. On n'y avait pas pensé, mais Dieu nous a envoyé cette personne et puis c'est un cadeau et on va vivre l'annonce de l'Évangile avec elle.
C'est une inversion du monde du bénévolat, où c'est la personne avec ce qu'elle est, avec comment elle vient, et avec elle vous allez construire son bénévolat,
voilà.
En quelque sorte.
Et parfois cette personne fait partie des pauvres ou des petits, mais elle a un vrai don, et on essaie de mettre ce don en valeur, et c'est tout à fait extraordinaire. Je pense à cette dynamique des tables ouvertes, dans laquelle se sont engagés des gens qui, au point de départ, étaient accueillis parce qu'ils étaient seuls ou dans la marginalité sociale, et puis qui finalement se mettent au service des autres et deviennent de vrais animateurs. Même en termes de préparation au mariage ou de préparation au baptême, des gens qui ont tout découvert à l'occasion d'une demande de baptême du bout des lèvres pour leur enfant, qui se disent quelle belle dynamique je vais m'engager, c'est tout à fait extraordinaire.
C'est un peu maintenant que j'ai envie de citer votre devise épiscopale, non apporte d'agir et c'est d'agir. Il n'apporte pas tant d'agir que d'être agi, et donc de ne pas compter sur ses propres forces.
Et oui, si on compte sur ses propres forces, pour peu qu'on soit assez réaliste par rapport à soi-même, le combat est déjà perdu. Mais si on sait qu'on s'appuie sur Dieu, on n'a plus peur de rien. Et on sait que l'avenir sera radieux et on vit dans la confiance. Il faut qu'on fasse attention dans cette période de la vie de notre Église qui nous fait sortir d'un monde qui était un monde dans lequel l'Église était encore assez riche et assez puissante. Si on rêve de ce passé qui est révolu, on risque d'être dans la frustration ou dans cet effort impossible pour retrouver ces schémas anciens. Mais ça, c'est simplement impossible. Il faut plutôt être dans une attention à ce que Dieu veut faire naître et qui va nous surprendre tout à fait, mais qui est tout à fait extraordinaire quand on vraiment regarde, quand on accepte de regarder ce qu'on n'avait pas prévu, mais que Dieu fait surgir.
C'est une foi que partage votre économe diocésain?
Oui, je crois. Je crois que c'est dans cette perspective d'ailleurs qu'on a été en dialogue aussi pour pour le recruter, pour qu'il accepte de répondre à cette mission. C'est beau d'ailleurs parce qu'il a accepté d'être aussi dans une certaine sobriété salariale, même par rapport à ses pairs parmi les économes en France et dans d'autres diocèses. Finalement, il se dit, moi, c'est pas ce que je cherche. Bien sûr, j'ai besoin de vivre dignement, mais je cherche pas un poste à responsabilité hautement rémunérateur. Je cherche une mission d'église.
C'est beau. On souhaite tous pouvoir être entourés de personnes comme celle-là. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et pendant tout ce mois de juin. J'espère que nos auditeurs ont pu se faire une idée un petit peu plus juste de ce que l'Église, dans ses dimensions temporelles et spirituelles, qualifie de pauvreté. Peut-être un petit mot de la fin, Monseigneur.
Bien, je reviendrai dans ce mot de la fin, peut-être à ce que nous disions au début. Vivre de la pauvreté, c'est vraiment d'abord contempler le Christ, qui est le pauvre par excellence. Et puis, comme lui, s'abandonner à cette filiation dans le souffle de l'Esprit. Donc, cette logique d'offrande, finalement, l'Eucharistie, c'est le lieu de l'appauvrissement par définition. C'est-à-dire qu'on essaie de faire l'offrande de notre vie comme le Christ fait l'offrande de lui-même à son Père dans l'Esprit. Et donc vraiment, tout part de là. D'ailleurs, dans l'Église, tout commence et tout finit à l'Eucharistie. Et c'est l'Eucharistie, ce pain des pauvres qui fait de nous, de ces pauvres dont le Christ et son Église ont besoin aujourd'hui.
Merci, Monseigneur Chen.
Merci
à bientôt.
À vous.